Et il faut que le Parlement européen et le Conseil des ministres européens soient d'accord à la virgule près pour qu'un texte devienne une loi. Voilà pourquoi ça peut durer parfois un an, deux ans, avant que le texte ne soit prêt. Et pour nous, c'est très important parce que pendant tout ce processus, les mobilisations sociales, les interventions politiques, ça compte, parce que ça fait bouger le rapport des forces. Et je disais, il y a une quatrième institution dont on ne parle pas beaucoup, Pierre en a parlé, c'est la Cour européenne de justice, qui est ultra puissante, qui est sans recours. Une fois que la Cour européenne de justice a tranché, tout le monde doit appliquer, y compris les États. Il n'y a pas de recours possible. Et donc, vous verrez tout à l'heure, on va y revenir, c'est un élément très important à prendre en compte dans l'évaluation des différentes moutures qu'on nous présente de cette directive Bolkestein. Alors, où en est-on? C'est un vrai champ de bataille dans toutes les institutions européennes. Au Parlement, nous avons donc été saisis de ce projet de directive que très tardivement, ce qui n'est pas du tout la règle, puisque comme Pierre l'a dit, le texte de la directive, du projet de directive, était déjà fait dès janvier 2004, voté, adopté à l'unanimité de la Commission européenne, toutes tendances confondues, pas celle de Barroso, mais celle qui était présentée à l'époque comme plutôt plus centriste, voire un peu de gauche, centre-gauche, disaient certains, celle de Prodi. À l'unanimité. Et entre janvier 2004 et février 2006, c'est quand même passé du temps. Nous n'avons été saisis au Parlement européen qu'à l'automne 2005. Entre-temps, il s'était passé quelque chose, le référendum sur le projet de traité constitutionnel. Ils ont donc fait silence, ils voulaient du moins faire silence sur ce texte pour éviter ce qui les effraie le plus, c'est un vrai débat citoyen sur la base d'expériences, d'échanges et d'interventions des gens. Ce silence a été rompu. Grâce, le point de départ, c'était des mouvements sociaux en Belgique, et puis un certain nombre d'entre nous, dont Pierre Calfa et moi-même dès le début, nous avons contribué à populariser ce texte, et dès juin 2004, et finalement, le point d'orgue, disons, de cette mobilisation, souvenez-vous, c'était mars 2005, notamment le 19 mars à Bruxelles, il y avait une gigantesque manifestation européenne de 100 000 personnes. Je suis sûr que si on avait voté au Parlement européen le lendemain, on aurait eu un bon résultat. C'était l'époque où, ça a été rappelé, Jacques Chirac avait dit, en gros, grâce à moi, la directive européenne, directive Bolkestein, est au panier. Elle est tellement au panier qu'elle va être votée dans 10 jours au Parlement européen. Entre-temps, des commissions parlementaires, comme à l'Assemblée nationale, se sont saisies de ce texte et ont préparé un projet qui va être soumis à la séance plénière du Parlement européen dans 10 jours. Et la principale commission concernée, ce qu'on appelle la commission du marché intérieur, a adopté un texte qui amende le projet initial de la Commission européenne, mais qui l'amende vraiment à la marge. C'est un texte de droite, c'est un texte très libéral, c'est un texte très mauvais, qui certes ne reprend pas l'expression principe du pays d'origine, parce que c'est devenu invendable, mais c'est la même chose, ça s'appelle clause du marché intérieur. Dans la discussion, on pourra y revenir si vous voulez, c'est du pipeau complet, c'est le principe du pays d'origine. et y compris les gens de la majorité présidentielle française qui avaient dit à l'époque que c'était une directive abominable qui, grâce à eux, n'existait plus, ont voté pour cette mouture-là, qui ressemble comme un frère jumeau à la mouture initiale de la Commission européenne. Donc c'est ça qui va être sur la table des députés dans 10 jours. Mais évidemment, il y a des batailles, et entre autres, il y a, disons, deux types de batailles qui se mènent. Il y avait une tentative de gauche qui visait à, en tout cas, à limiter le plus possible le champ d'activité, le champ d'action de cette directive, le champ d'application de cette directive, qui visait en particulier, par exemple, à éliminer dans les traités, on appelle les services d'intérêt économique général, l'eau, l'électricité, le gaz, etc. Au moins ça. Et qui visait à diminuer l'effet extrêmement négatif de cette directive. Ça a été battu. Et il y a d'autre part à gauche une minorité, dont la totalité de mon groupe, la gauche unitaire européenne, mais également une partie des Verts et un certain nombre de socialistes, un certain nombre, pas le groupe, un certain nombre, qui ont continué la bataille que nous avions menée ensemble avec les syndicats en mars 2005, c'est-à-dire la campagne pour le rejet de la directive, pas pour son aménagement même poussé, mais pour son rejet. Nous allons déposer une motion de rejet, mais je dois dire que en commission, cette motion de rejet, malheureusement, n'a recueilli qu'un très petit nombre de voix, 7 voix sur 40, c'est-à-dire que toute la droite et la majorité de la gauche n'ont pas rejeté le projet de directive en commission. J'espère évidemment qu'en plénière, en séance plénière, ce sera mieux, d'autant qu'entre-temps, il y a quand même eu pas mal d'initiatives, de rassemblements, de luttes, d'explications, mais pour vous dire quand même qu'il faut les arracher, ces voix, une à une, et que donc toute initiative comme celle de ce soir, ou comme à plus forte raison les deux grandes manifestations qui auront lieu en février, le 11 février et le 14, j'espère, permettront de bousculer ce rapport des forces. Maintenant, la Commission. La Commission européenne ne reste pas inerte. On a appris qu'hier, il y a eu une réunion interne et à huis clos de la Commission européenne sur la directive Bolkestein, qui, tenez-vous bien, a estimé, du moins un certain nombre de commissaires ont estimé, que c'était très dangereux d'assister, sans rien faire, à cette tentative d'édulcorer la directive service, et il parlait de la majorité de droite du Parlement européen qui pourtant la laisse quasiment intacte. Mais comme il y a quand même des petits bougets à la marge, et qu'en plus ils craignent que ces bougets aillent plus loin en séance plénière, ils disent, ces commissaires les plus libéraux, il faut une contre-offensive de la Commission. Il faut faire tout de suite après le vote du Parlement une nouvelle directive, mais pour la corser, pour la muscler, comme ils disent. Et la presse a donné des noms, la commissaire Madame Danita Hübner, qui est polonaise, c'est celle qui s'était illustrée en disant qu'il fallait favoriser les délocalisations dans l'Europe élargie. Il y a l'Espagnol Almunia, socialiste espagnol, qui lui a dit donc hier en réunion à huis clos, mais heureusement aujourd'hui tout se sait, qu'il fallait généraliser le principe du pays d'origine, Et puis il y avait deux absents, mais qui ont fait savoir qu'ils étaient également pour muscler la directive Bolkestein dans un sens libéral, c'est le Britannique Mandelson et l'Estonien Kallas. Et par ailleurs, dit la presse, il y a les commissaires réalistes, pragmatiques, qui sont donc en quelque sorte plus raisonnables. Parmi ces raisonnables, il y en a un qui est le commissaire au marché intérieur, qui s'appelle M. McCreevy. Pour vous donner une petite illustration de son côté pragmatique, réaliste et raisonnable, je ne résiste pas à la tentation de vous lire un extrait. Oui, voilà. Parce que on l'avait convoqué au Parlement sur une autre affaire dont je vous dirai peut-être un mot tout à l'heure, où il a dit ceci. Il me paraît extraordinaire que je doive justifier mes commentaires sur un incident. Un incident, c'était un énorme scandale en Suède, où je vous le dis quand même d'un mot tout de suite, où une entreprise lettonne a participé à un appel d'offres pour construire une école et a prévu des salaires si bas qu'elle a emporté l'appel d'offres haut la main. Elle est donc venue pour construire l'école et elle a refusé d'appliquer les conventions collectives suédoises. Évidemment, il voulait payer 4 fois moins que la convention collective, 4 fois moins. Et donc elle s'est heurtée à la résistance des syndicats, une résistance si forte que le gouvernement suédois a dû donner raison aux syndicats. Et l'entreprise n'a donc pas pu construire cette école. Et elle s'en est pris à la Cour de justice européenne, cette fameuse Cour de justice. Ça s'est passé en 2004. Il n'y a toujours pas de verdict, c'est toujours une épée de Damoclès. Mais ce commissaire McCreevy, avant même qu'il y ait eu quelques décisions que ce soit nulle part, a dit publiquement, je donne raison, moi commissaire au marché intérieur, je donne raison à l'entreprise lettonne parce que nous sommes dans l'Europe. Il n'y a pas encore Bolkestein. En vertu des traités actuels, la libre circulation des services, etc., etc., cette mesure du gouvernement suédois, des syndicats suédois, est une entrave à une liberté reconnue aux entreprises par les traités actuels. Donc on l'avait convoqué au Parlement. Et donc il avait dit, il trouve scandaleux de devoir s'expliquer. Et puis il ajoute... Je continuerai d'exprimer clairement mes opinions. Je me fiche de savoir ce que ça dérange certaines personnes. Je crois passionnément au rôle principal de la Commission qui est de garantir l'application des règles du traité. Je suis prêt à défendre vigoureusement ce rôle. J'ai juré de le faire. Et il ajoute, les syndicalistes lettons ont tout autant de droits que les syndicalistes suédois à ce que leurs intérêts soient défendus. Donc il veut opposer les syndicats entre eux. Et il dit, il avait un... Oh, bon, écoute, je ne vais pas vous embêter. Il y a, je crois, encore une belle phrase. Il ne faut pas avoir peur du marché intérieur. Il faut, au contraire, l'embrasser. Je défendrai toujours les droits inscrits dans les traités. Si certains membres de cette Assemblée attendent de moi que je rampe en silence et que je ne dérange pas certains États et certains députés, ils vont être déçus, je le crains. Voilà quelqu'un... que la presse appelle un pragmatique, un réaliste, un raisonnable. Vous pouvez imaginer ce qu'est la Commission européenne Barroso et comment elle va entrer, elle continue d'entrer en scène dans la bagarre sur Bolkestein. Ça, c'est la Commission. Donc, cela dit, ils ont peur. Ils se méfient de l'eau qui dort, ils savent très bien... que l'Europe libérale est aujourd'hui rejetée majoritairement dans l'Union européenne et que cette directive, une fois que les gens, aujourd'hui mal informés, se rendront compte des effets sur leur vie quotidienne, ça fera mal. Et donc, ils craignent qu'à tout moment, ce mouvement, disons que la mayonnaise prenne, quoi, que le mouvement se révèle. Donc, actuellement, ils font très attention et ce que je viens de vous dire sur la réunion de la commission hier ne devait évidemment pas être rendu public. Mais, par exemple, dans cette affaire suédoise, comme par hasard, le même jour, hier, la Commission européenne a émis un avis. C'est pas elle qui tranche, c'est la Cour de justice. Mais elle a émis un avis précisément par hasard 15 jours avant le vote sur la directive Bolkestein, où elle dit, contrairement au commissaire à l'époque qui avait donné raison à l'entreprise lettonne, non, nous comprenons très bien l'attachement des travailleurs suédois à leur modèle social et la Commission soutient ce modèle social et ne voit aucune contradiction avec les règles et donc laisse entendre, mais sans le dire, et pour cause, que finalement ce sont les syndicats qui auront raison dans l'affaire. La Cour ne dit rien, elle attend le moment venu pour se prononcer. Ensuite, le Conseil des ministres. C'est la troisième institution. Eh bien, moi, je crois que ce Conseil européen est peuplé de conservateurs, très majoritairement, ou de socialistes libéraux. Mais je crois qu'ils sont plus conscients, et c'est malheureux à dire, ils sont plus conscients des difficultés qu'ils vont rencontrer vis-à-vis de leur propre société avec cette directive qu'un certain nombre de parlementaires européens. Certes, ils sont pour cette directive, mais ils s'en méfient. Il y a eu au mois d'octobre un Conseil européen, là encore à huis clos, et là encore, ça c'est sorti. Il y a eu une discussion entre chefs d'État et de gouvernement sur la directive service, directive Bolkestein, et le Premier ministre autrichien, qui est un conservateur patenté, a dit... Ne nous racontons pas d'histoire entre nous, nous n'arriverons pas à sauver cette directive, il vaudrait mieux la retirer. Et il y a eu à la suite 5 ou 6 chefs d'État et de gouvernement qui ont dit oui, il faut la retirer. À l'époque, c'était Tony Blair qui était président du Conseil en exercice, il a sauté au plafond, président de la Commission Barroso également, et l'affaire a été enterrée. Mais pour dire, je pense que ça montre que les citoyens, les salariés sous-estiment la force potentielle qu'ils représentent, puisque même des chefs de gouvernement très libéraux sont manifestement prudents parce qu'ils se disent que tôt ou tard, ça risque de leur coûter cher. Voilà pourquoi, je partage tout à fait ce qu'a dit Pierre, il y a l'étape immédiate du 14 février pour le débat et du 16 février pour le vote, mais ce n'est que le début d'une longue bataille, donc d'une longue mobilisation. Je pense qu'il n'est absolument pas exclu de pouvoir gagner, y compris le rejet de cette directive, comme on vient de gagner pour la deuxième fois le rejet de la directive sur les services portuaires. Moi, j'ai d'ailleurs, dès le lendemain de ce vote sur le rejet de la directive portuaire, rejet massif, je suis allé voir le président de la Commission européenne, M. Barroso, et je lui ai dit, vous n'envisagez pas d'introduire la libéralisation des services portuaires dans la directive sur la libéralisation des services en général. Vous n'avez quand même pas cette prétention. Il m'a dit, je vous promets, je vous jure, je vous garantis que non. Tellement il a été, manifestement, ils ont tous été impressionnés par la mobilisation des travailleurs portuaires. Ça doit faire réfléchir sur les ingrédients d'un bon rapport de force. Donc, il y a à la fois actuellement un paysage qui n'est pas bon. Le rapport de force au Parlement, aujourd'hui, n'est pas bon. J'espère qu'il va encore bouger dans les 10 jours, mais il n'est pas bon. Et la Commission, il est exécrable, ils sont extrêmement durs, mais je pense que les subterfuges qu'ils utilisent, les prudences dont ils font preuve dans l'immédiat montrent qu'ils sentent qu'une mobilisation est possible et pourrait leur barrer la route. Je pense que c'est le but que nous devons nous assigner. J'ai évoqué le cas de cette entreprise lettonne en Suède, pour dire que la directive Bolkestein ne vient pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il y a d'autres entreprises qui actuellement, avant même la directive Bolkestein, pratiquent ce dumping social, cette mise en concurrence des salariés. La dernière affaire en date qu'on vient de nous signaler, c'est la compagnie de ferry Viking Line, et notamment un ferry qui relie Helsinki à Tallinn, c'est-à-dire la Finlande à l'Estonie, fait la navette. C'est une entreprise finlandaise avec des marins finlandais, un droit social finlandais, qui veut maintenant changer de pavillon, prendre un pavillon estonien, continuer évidemment comme avant, mais pour appliquer les règles estoniennes. C'est du Bolkestein avant Bolkestein. Pourquoi ? Parce que beaucoup est déjà possible. Bolkestein, comme ça a été dit, veut parachever la directive Bolkestein, vise à parachever ce qui existe aujourd'hui. Donc la mobilisation contre Bolkestein doit être en même temps une mobilisation contre tous les Bolkestein light, en quelque sorte, qui existent dans les structures actuelles de l'Europe libérale. Voilà pourquoi c'est un enjeu considérable. C'est finalement la conception de l'Europe qui est en jeu. Pendant longtemps, c'était une construction européenne par harmonisation des législations nationales. Et donc, c'était des actes politiques, c'était des votes dans lesquels on pouvait intervenir et au moins espérer arracher des harmonisations vers le haut. On est passé de cette construction européenne-là à une intégration européenne par le marché, par la mise en concurrence. Ça, c'est forcément l'harmonisation vers le bas. Et là, il y a toute une série de directives, de structures qui d'ores et déjà existent et que le mouvement que nous sommes en train de nourrir devra mettre en cause en même temps que la directive Bolkestein elle-même. C'est donc une énorme bataille, une vraie bataille de société. Je vous remercie.